Bonjour Frédéric, bienvenue sur l'antenne d'Alpe 1.
Bonjour Laetitia.
On va commencer d'entrée avec nos questions du chef sur le grill par le plat de ton enfance. Est-ce qu'il y a quelque chose qui t'a particulièrement marqué quand tu étais petit ?
Alors oui, effectivement, c'était le plat de mon enfance, c'était les traditionnelles coquillettes, huile d'olive et jambon mixé, quoi. Donc c'était le plat que j'affectionnais énormément quand j'étais petit et que ma maman me préparait.
C'est ce que j'allais te demander, c'est ta maman qui te préparait ça ?
Tout à fait, c'était ma maman qui me préparait ce plat simple, mais ô combien goûteux pour un enfant, et c'est quelque chose qui a marqué vraiment mon enfance.
Et c'est quelque chose que tu mangeais au quotidien, que tu mangeais souvent, ou bien c'est quelque chose qui était réservé, je sais pas, quand t'étais malade à la maison, c'était le plat un peu réconfort, comfort food, comme on dit aujourd'hui, ou c'était le plat de tous les jours ?
Non, c'était le plat, on va dire, souvent le dimanche soir, fin de semaine, fin de week-end, et pour préparer le début de celle qui attaquait après, quoi.
Contre le blues du dimanche soir, tu recommandes donc les coquillettes jambon beurre, c'est ça ?
Oui, c'est ça, tout à fait.
Je vais te poser une deuxième question. Quelle a été ta première émotion, vraiment émotion gastronomique ?
Alors ma première émotion gastronomique, c'est lorsque j'ai fait ma formation à l'Institut Paul Bocuse à Écully, où j'ai eu la chance d'être invité pour faire un repas chez Paul Bocuse justement. Et ma plus grande émotion, ça a été à la fin du repas de rencontrer Monsieur Paul. Mon émotion a été tellement grande que j'ai pleuré dans ses bras. Et je me rappellerai toujours cette phrase que Monsieur Paul Bocuse m'a dit, mais pourquoi vous pleurez ? Et je lui ai dit, écoutez, c'est quelque chose pour moi qui est énorme de vous rencontrer aujourd'hui. Et il m'a rassuré, il m'a dit, non, mais il faut pas pleurer, je suis là pour le plaisir des gens. Et c'est voilà, c'est un souvenir que j'ai et qui est marqué à jamais dans ma mémoire. C'était vraiment ma première émotion gastronomique lors de cette soirée chez Monsieur Paul Bocuse.
Et est-ce que tu te souviens d'un plat en particulier dans ce dîner gastronomique ? Est-ce qu'il y a un plat qui t'a marqué ou finalement, c'est ce qui a pris le pas, c'est l'émotion de rencontrer ce grand chef ?
Alors écoute, j'ai vraiment eu des souvenirs sur le repas, bon, notamment la soupe, la célèbre soupe à la truffe, VGE, mais je vais dire que cette rencontre avec Monsieur Paul a été vraiment le summum de cette rencontre. Ça a été vraiment ce qui m'a le plus marqué.
Frédéric, est-ce que tu peux nous dire quelle est la recette familiale dont tu as hérité ? Est-ce que ta maman, ta grand-mère ou ton papa, pourquoi pas, t'a transmis une recette qu'aujourd'hui tu fais encore ?
Alors oui, parce que j'ai la chance et un peu la particularité d'être un lien de famille, donc du côté de ma grand-mère qui était catalane et qui était partie de Barcelone pour fuir malheureusement la guerre à l'époque, et qui est venue jusqu'en France à pied, et qui a rencontré, donc du coup, enfin qui a donné naissance à ma maman, et qui, ma maman, a rencontré le fils d'une grande famille d'agriculteurs. Et tout ça pour dire que la recette familiale qui m'est restée, c'est la paella de ma grand-mère. La paella catalane, comme elle l'a préparée, c'est quelque chose qui, pour moi, j'ai encore la chance aujourd'hui de la faire. Je l'ai même transmis la recette à ma fille. Parce que ben voilà, c'est déjà beaucoup d'amour, ça c'est une certitude, mais c'est un savoir-faire qu'elle m'a donné la chance de pouvoir faire et de pouvoir partager quand j'invite des amis ou quand on me demande professionnellement.
C'est ce que j'allais te dire, c'est très convivial et c'est vraiment chouette de pouvoir se le transmettre dans la famille, de père en fils, de père en fille. Est-ce que du coup, ben faudra me la faire goûter, hein, parce que là c'est l'heure du déjeuner. J'avoue, je pense qu'on doit donner fin à nos auditeurs s'ils sont pas à table. Quelle est la saveur qui a marqué ton adolescence ? Souvent les ados, on n'aime pas trop la gastronomie. Est-ce que toi, tu étais plutôt burger ou déjà un peu intéressé par ce qui avait du goût ?
Alors moi, écoute, ben, comme je l'expliquais hier, du fait de ma grand-mère qui était catalane, moi, quand j'étais adolescent, on avait l'habitude justement d'aller à Barcelone. Et c'était une sucrerie qui a marqué mon adolescence, c'est ce qu'on appelle un touron. Et un touron, ben, c'est un peu, on va dire, l'équivalent de notre nougat provençal. C'est une sucrerie, une pâtisserie qui est créée à base de miel, de sucre, de blanc d'œuf et d'amandes. Donc c'est vraiment la saveur qui a marqué mon adolescence. Et dès que j'en trouve aujourd'hui, je n'hésite pas à en acheter et à le goûter.
Ça te rappelle tes années à Barcelone, enfin les ces voyages à Barcelone en famille. Est-ce que tu mangeais aussi les churros, ou est-ce que je dis une bêtise? C'est peut-être pas de la même région, ou c'est de Barcelone aussi, ces petits beignets?
Non, c'est les churros, c'est vraiment autre chose. Non, le plus c'était le touron, et c'est ce qui a marqué le plus. Mais non, les churros, c'est un peu plus bas, on va dire.
C'est un peu plus bas, voilà. C'est ce qui me semblait. C'est en Espagne aussi, mais c'est pas de la même région.
Tout à fait.
Merci beaucoup, Frédéric, pour cette première question.
Merci.
J'ai envie de te demander, parce que c'est souvent important pour un chef. Est-ce que tu te souviens du premier restaurant que tu as pu t'offrir? Et puis quel était ce resto et dans quel contexte?
Alors écoute, oui, je m'en souviens parce que c'est pareil, c'est ce qui a, on va dire, marqué le début de ma carrière dans la cuisine. J'ai eu la chance d'aller dans le restaurant de Cyril Lignac à Paris, qui s'appelait le 15e, parce qu'il était situé justement dans le 15e arrondissement. C'était le premier restaurant de Cyril Lignac qui, à l'époque, avait été créé dans le cadre d'une émission télé. Et c'était à l'occasion de mes 30 ans. Donc j'ai eu la chance d'aller dans ce restaurant avec mon épouse et de rencontrer Cyril Lignac et de faire connaissance avec ce chef qui à l'époque a vraiment donné naissance à une passion pour la cuisine.
Hein, oui.
Voilà.
Et donc du coup, est-ce que tu es resté en contact peut-être avec lui après, ou en tout cas est-ce que ça t'a marqué? Vous avez vraiment pu échanger un petit moment tous les deux?
Oui, on a gardé contact. Bon, aujourd'hui, il est très très pris par toutes ses émissions et par tout ce qu'il fait à côté avec ses restaurants. Mais c'est quelqu'un qui a le cœur vraiment énorme et je suis content de connaître cette personne.
Et est-ce qu'il a un plat dans son restaurant ou un plat signature que tu aimes particulièrement?
Alors écoute, moi depuis quelques temps, malheureusement, j'ai pas pu retourner à Paris dans ces nouveaux restaurants, puisque ce restaurant n'existe plus aujourd'hui, il l'a vendu. Mais oui, il y avait des plats qui m'avaient marqué, notamment une ratatouille qu'il faisait lui, qui était vraiment excellente.
En plus, la ratatouille, c'est un peu, j'imagine, ta spécialité aussi, étant donné que tu viens du Sud.
Oui, c'est une de mes spécialités. Et lui, bon, il avait l'opportunité de la faire de manière très gastronomique, donc ce qui donnait un plus à ce plat familial.
On se retrouve avec Frédéric Paillon pour la troisième question de ce mardi. La saveur la plus étrange qu'il t'a été donné de goûter, Frédéric, est-ce que tu peux nous en parler?
Alors écoute, c'est une expérience inoubliable. J'ai eu la chance d'aller faire un voyage au Mexique, à Cancun exactement, et on a eu l'opportunité d'aller dans un petit village mexicain au fin fond de la forêt mexicaine, et j'ai eu la chance de goûter des poitrines de porc qui étaient séchées à même l'air libre, pendu à un fil, je me rappelle, et accroché avec des épingles à linge. Au premier abord, quand j'ai vu ça, je me suis dit waouh, ça va être compliqué de manger ça.
Ouais, et puis, j'imagine, c'était peut-être pas très appétissant, c'est ça?
Voilà, pas très appétissant. Et puis pour des chefs qui venons nous de pays comme la France, c'est un peu particulier parce qu'on voit cette viande sécher encore une fois à même l'air libre. Et on se posait la question, et j'ai eu la chance de goûter. C'était étrange. Très très bon, mais voilà, j'avoue que je sais pas si je retenterai l'expérience.
Comment tu décrirais? Est-ce que ça avait une saveur particulière, ou c'est la texture, ou c'est qu'est-ce qui t'a marqué?
Alors un peu les deux, c'était une saveur un peu étrange parce que il y avait beaucoup d'épices.
Okay.
Et une texture qui était un peu qui ressemblait un peu à une semelle, on va dire, quelque chose de très caoutchouc, je sais pas, caoutchouc, comment on dit. Voilà, quelque chose qui était pas évident à manger, mais voilà, c'était étrange.
Bon, en tout cas, c'est étrange, ça répond bien à la question. Quelle est la saveur qui t'a le plus inspiré? Le chef, pardon, pas la saveur, le chef. La saveur, je t'ai demandé hier, le chef qui t'a le plus inspiré. Alors, c'est vrai que lundi, tu nous as parlé de Paul Bocuse. Mardi, tu nous as parlé de Cyril Lignac. Est-ce qu'il y en a un troisième qui t'a inspiré vraiment dans ta carrière de chef?
Oui, des chefs, il y en a. Bon, c'est vrai que les deux, comme je disais lundi et mardi, les deux qui m'ont vraiment le plus inspiré, c'est Cyril Lignac et Paul Bocuse. Mais après, oui, j'ai la chance de justement chaque année d'aller au CIRA, qui est la rencontre mondiale des chefs
à Lyon. Je dis pas de bêtises, voilà.
Tout à fait, Laetitia. Et c'est un moment pour moi qui est important tous les deux ans parce que je rencontre des amis, des chefs étoilés, une, deux, trois étoiles. J'ai la chance de connaître Alexandre Mazia qui est à Marseille, qui est un chef triplement étoilé, voilà.
Ancien basketteur, et si je dis pas de bêtises, tout, il y a eu une
ancien,
vie, encore voilà, un peu, hein,
Encore un peu, oui, il donne de sa personne justement pour former les plus jeunes au basket. Alex, c'est quelqu'un qui est extraordinaire parce que c'est un chef qui partage. Et voilà, moi, je pense qu'on fait ce métier aussi par partage parce que si on n'aime pas les gens, comme disait Paul Bocuse, on peut pas cuisiner. Et voilà, Alexandre en fait partie. Michel Saran aussi, qui est à Toulouse, que j'ai la chance de connaître aussi. Michel a vraiment cette partage aussi. Il vient vers toi, il parle, il discute de cuisine, c'est quelqu'un qui est énorme, et voilà, c'est des chefs, enfin je pourrais en dresser quelques-uns.
Et est-ce qu'il y en a un que tu n'as pas encore rencontré et que tu rêves de rencontrer, ou que peut-être jamais rencontrer si c'est un chef qui est décédé?
Non, alors oui, c'est un chef qui est existant et que j'ai juste eu l'occasion de croiser en quelques secondes, c'est Philippe Etchebest, parce que on a un chef en connaissance en commun qui est Michel Portos, qui était un ancien chef étoilé aussi, qui est de Marseille. Et voilà, j'aimerais bien un peu plus discuter et échanger avec Philippe Etchebest. Ouais.
Quel est l'ustensile dont tu ne peux pas te passer en cuisine?
Alors, la réponse, elle est très très simple, c'est une cuillère. Alors, pourquoi une cuillère? Parce que j'ai toujours une cuillère sur moi pour goûter, tout simplement. Parce que on est dans un métier où si on goûte pas, on sait pas où on va et ce qu'on propose aux clients qui sont assis à table. Donc pour moi, voilà, l'ustensile indispensable, c'est la cuillère ou une fourchette éventuellement, mais voilà, la cuillère, la petite cuillère à café qui va toujours bien et qui est toujours présente très très proche de moi.
Donc elle est toujours dans ta poche ou même quand t'es en vadrouille quelque part, t'as une cuillère dans la poche que tu peux dégainer pour goûter, c'est ça?
C'est ça. Du moins quand je suis en cuisine. Voilà. Après, voilà. Des fois, quand on est en forêt, parce que je suis un cueilleur aussi, là je vais pas goûter avec la cuillère, mais voilà, non, quand je suis en cuisine.
En tout cas, c'est important pour tous les chefs, ce côté très, très sensuel de pouvoir goûter au fur et à mesure que le plat se fait. Tu confirmes?
Tout à fait. Je confirme. C'est très, très important.
Merci beaucoup. Donc, on saura que Frédéric Payan ne se déplace jamais sans sa petite cuillère. Je vais te demander, pour cette dernière question de ce mercredi midi, quel est ton ingrédient fétiche et s'il y en a un que tu détestes?
Alors,
et pourquoi, bien entendu, je vais te demander un peu d'explicité.
Alors, mon ingrédient, je vais pas dire mon ingrédient parce qu'il y en a quelques-uns en fait, mais ils sont regroupés dans une famille, c'est les aromatiques. Étant de Haute-Provence, ça s'entend peut-être au micro aujourd'hui. Voilà, moi, si j'apporte une particularité et quelque chose de très important à tous les aromatiques, que ce soit le thym, la sarriette, le romarin. On a la chance d'être dans un beau département, dans une belle région, et d'avoir toutes ces jolies plantes qui sont dans nos montagnes. Et étant un chef cueilleur, forcément, j'aime aller ramasser ces aromatiques et après les intégrer dans mes recettes. C'est quelque chose comme les champignons, hein, c'est deux choses qui comptent énormément pour moi. Et voilà, c'est ce qu'on va dire qui est pour moi l'ingrédient fétiche. Après, ce que je déteste, il y a des choses, notamment les abats. Voilà, c'est tout ce qui
ça,
est foie.
C'est commun sans doute à beaucoup des auditeurs qui nous écoutent aussi. C'est pas le truc le plus sexy du monde, je dois avouer.
Ouais, c'est quelque chose qui peut être très bon si bien travaillé, mais encore une fois, c'est pas pour moi, l'ingrédient ou la matière première que j'affectionne à travailler, que ce soit les foies, les rognons, les riz de veau. Voilà, c'est
il y en a qui font ça,
bon.
Qui font ça très bien. Ceci étant dit,
il y a des
chefs, voilà, dont c'est le truc, on va dire.
Tout à fait. Tout à fait, il y a des chefs qui sont spécialisés dans tout ça et ils font très bien leur travail et je leur laisse ce plaisir-là.
Quel est ton pire cauchemar en cuisine? Alors ça peut être une anecdote vécue ou redouter le fantasme du pire cauchemar en cuisine.
Alors écoute, c'est une anecdote vécue. C'est quelque chose qui m'est arrivé il y a quelques années lors de la fête de l'école de ma fille. On m'avait demandé justement, comme je disais il y a quelques jours, je crois que c'était mardi, de faire une paella.
Donc ton plat de prédilection, celui que ta grand-mère, je rappelle pour les auditeurs qui nous auraient pas écouté en début de semaine, c'est la recette familiale qui t'a été transmise par ta grand-mère qui venait d'Espagne.
Exactement, c'était la paella catalane de ma grand-mère, et on m'avait demandé de la faire pour 200 personnes lors de cette fête de l'école.
Ah oui, quand même, 200 personnes,
c'est quelque chose. Je suis monté jusqu'à 400 personnes, donc c'est quelque chose qui est pas simple à faire, mais qui est un plaisir, comme toute chose que je cuisine, c'est vraiment toujours un plaisir. Mais bon, là, cauchemar, pourquoi? Parce que justement, on m'avait dit qu'il y avait 200 personnes, et ce jour-là, il s'avérait qu'il y en avait 220. Voilà. Et en fait, on sert, et puis à un moment donné, on voit la poêle qui se vide, et encore 20 personnes face à nous qui demandent à manger, mais on n'a plus rien.
Voilà. Tu t'es retrouvé vraiment à sec, de plus rien.
Je pouvais plus donner quoi que ce soit, même pas un petit grain de riz ou non. C'était voilà, ça a été vraiment un pire cauchemar. Il a fallu s'excuser auprès des 20 personnes qui, en fait, on l'a su après, n'étaient pas comptées. Ils s'étaient rajoutés, et donc du fait, les 20 personnes n'avaient pas pu manger. Bon, maintenant, à chaque fois qu'on me demande de faire une paella,
je prévois beaucoup plus, tout à fait.
Je préfère qu'il y en ait plus que pas assez. Voilà.
Je vais maintenant te demander, Frédéric, quel est ton meilleur souvenir en cuisine? Je vais te rappeler des choses un peu plus agréables.
Alors écoute, des souvenirs, j'en ai quelques-uns maintenant, après toutes ces années d'ancienneté dans la cuisine, mais un qui m'a marqué énormément, il n'est pas si vieux que ça, il date de janvier de cette année, de 2025. Alors pourquoi aussi récent? Parce que, comme j'expliquais il y a quelques jours, j'ai eu la chance de participer, en fait, d'intégrer les coulisses de la célèbre compétition des Bocuse d'Or au Sierra à Lyon, où je monte tous les deux ans. Et par coulisses, j'ai eu la chance justement de partager des grands moments avec Paul Marcon, qui a été en plus le candidat français et le vainqueur cette année du Bocuse d'Or, qui est pour nous les chefs le Graal de la cuisine gastronomique.
L'Oscar de la gastronomie.
C'est ça, tout à fait. Et donc j'ai eu la chance de côtoyer Paul, le fils de Régis Marcon, qui est un chef étoilé, célèbre. Et donc effectivement, être dans les coulisses, voir comment se passait ce célèbre concours de cuisine, ça a été pour moi vraiment un souvenir énorme. Bon, alors il est récent, mais je sais que il restera marqué dans ma mémoire.
Est-ce que
tu as
appris
dans
des choses? Est-ce qu'il y a des choses où tu te dis, ah bah tiens, moi j'aurais pas fait ça comme ça, ou ça me surprend, ou est-ce que tu as eu des surprises, ou ça s'est déroulé comme tu le pensais?
Alors les surprises, oui, c'est que en fait c'est vraiment tout à la seconde près, tout est chronométré, que ce soit n'importe quel taillage de légumes, n'importe quel levée de filet de poisson, tout est à la seconde, et vraiment c'est impressionnant de les voir travailler comme ça. Appris, oui, forcément, on apprend toujours, mais vraiment, ce qui m'a marqué le plus dans ce souvenir, c'est la manière dont se déroule ce concours au millimètre et à la seconde près. Quoi.
Très millimétré. Quel est ton petit plaisir coupable, Frédéric? Est-ce que tu as un plat préféré? Alors, on a compris, pour ceux qui ont écouté l'émission en début de semaine, et puis on l'a évoqué aussi dans ton cauchemar en cuisine, que la paella était un de tes plats préférés. Mais est-ce que tu as un petit plaisir coupable, un truc junk food, ou tu sais... Il y a des chefs, des fois, qui font d'excellents plats, puis qui disent « Moi, j'adore les fraises tagada quand personne me regarde. » Est-ce que toi, t'as un truc comme ça ou pas du tout?
J'en ai deux, on va dire, bizarrement.
Deux,
carrément. Alors, le premier, c'est la mousse au chocolat. Alors, c'est mon petit plaisir. Dès que j'en fais au resto ou j'en fais sur des événements... S'il en reste une, ou je me débrouille qu'il en reste plus d'une, j'avoue que voilà, je vais faire de sorte de manger cette petite mousse au chocolat en cachette sans qu'on me voie, parce que des fois je dis non, il faut le laisser au client, mais le chef les a faites et il faut qu'il les goûte. C'est important, ce que je disais aussi. Et puis le deuxième petit plaisir coupable, c'est, j'avoue, c'est le burger.
Voilà. Comme beaucoup, on est beaucoup quand même à aimer les burgers. Même si on sait que c'est pas très sain pour la ligne, c'est un bon burger, c'est quand même pas mal.
Voilà, exactement, un bon burger. J'ai la chance à Digne d'avoir un ami qui fait des burgers maison et forcément dans son restaurant, dès que j'y vais, je me fais plaisir, je prends des bonnes frites maison avec un bon burger maison et ben voilà, c'est quelque chose. Et des fois, quand je croise des amis dans ce restaurant,
aux heures du déjeuner là, si pour ceux qui sont sur la route, qui nous écoutent ou en voiture, qui n'ont pas encore mangé, j'imagine que ça doit être très très dur.
J'imagine, mais bon, voilà, bon appétit à tous si vous avez passé à table.
Petite question, est-ce que tu as un plat signature, comme en ont certains chefs, ou un plat en tout cas dont tu es fier parce que tu le réussis particulièrement bien? Alors, on ne va pas reparler de la paella, puisque c'est celui dont tu nous as parlé un peu tout au long de la semaine. C'est ta grand-mère, pour ceux qui n'ont pas pu nous écouter lundi, qui t'a appris à le faire. Tu as vécu ton pire cauchemar en cuisine à côté de ce plat-là. J'invite d'ailleurs les internautes à nous écouter en podcast s'ils veulent écouter toutes ces anecdotes.
Le plat signature, le plat que je suis le plus fier, c'est l'agneau de pays, qu'il soit de Sisteron ou pas, que je confie pendant 7 heures avec du thym que je ramasse dans les collines environnantes des Alpes-de-Haute-Provence et que j'accompagne avec du petit épeautre. Voilà, c'est vraiment le plat que j'affectionne et que tout le monde me dit qu'il est excellent.
Que tu réussis particulièrement, en tout cas c'est local.
Voilà, tout à fait.
Ça nous fait plaisir d'entendre ça. Merci beaucoup Frédéric. En plus, c'est l'heure du déjeuner pour ceux qui sont sur la route, peut-être en train de nous écouter, tu dois leur donner très faim. Quel est le plat que tu rêverais de mettre à ta carte et que tu n'as encore jamais pu mettre sur une de tes cartes ou sur une des prestations que tu proposes?
Eh bien, c'est un plat, enfin pas un plat, mais un produit que j'aimerais bien. Mais bon, comme on est dans la montagne, c'est le homard bleu. Donc
c'est vrai que c'est pas très local et de saison. Et
non.
Il va falloir déménager, là, Frédéric.
Il va falloir partir en Bretagne, mais non, étant provençal et fier de l'être, non, c'est vrai que c'est quelque chose que j'ai vu travailler, des chefs qui travaillent très bien, mais c'est un produit vraiment de prestige, un produit qui a des saveurs uniques. Et voilà, si demain je pouvais le mettre à la carte, ça serait avec grand plaisir et le travailler, mais malheureusement on n'est pas forcément dans la bonne région.
Oui, c'est voilà, il va falloir soit déménager, soit aller faire des prestations exceptionnelles pour nos amis bretons. Est-ce que tu te déplaces d'ailleurs un peu parfois? Quelle est ta zone géographique, j'allais dire?
Alors, on va dire essentiellement la région sud Provence PACA, donc c'est là où je fais le plus de choses, et bien entendu dans le 04 et le 05.
Dernière question pour clore cet entretien. Quel serait selon toi le casting idéal de personnalités, j'allais dire vivantes ou même mortes, hein, faisons-nous plaisir, tant qu'à y être, que tu rêverais d'avoir à ta table? Tous les délires sont permis.
Ah oui, c'est une très belle question. Écoute, je sais pas pourquoi, me demande pas, je partirais sur une table, allez, soyons fous, de 6 personnes. 6 personnes, une table ronde, où j'aurais bien aimé voir Johnny Hallyday, tiens, parce que c'était un artiste unique.
Tu l'as croisé parfois, non? Ou tu es particulièrement fan de son travail en tant qu'artiste?
Alors, j'ai eu la chance d'aller à nombreux de ses concerts parce que mon beau-père est fan de Johnny, donc voilà. Mais je n'ai pas eu la chance de le rencontrer. Mais je pense qu'artistiquement, ça aurait été sympa de voir une personne comme Johnny à sa table. L'autre, ce serait Paul Bocuse, c'est évident.
Forcément,
pour moi, c'est,
tu nous en as parlé en début de semaine.
Tout à fait.
Un des chefs qui t'a inspiré, qui t'a procuré de l'émotion.
C'est ça. C'est quelqu'un qui m'a provoqué beaucoup de choses, donc au niveau de la cuisine. Après, peut-être plus étonnant, Marcel Pagnol, parce que c'est quelqu'un aussi...
Ah, c'est le côté provençal, ça.
Voilà, provençal, c'est ça que j'ai eu la chance de lire beaucoup de ses ouvrages. Donc c'est quelque chose qui compte aussi pour moi. Louis de Funès, je suis en train de me rendre compte que c'est malheureusement des personnes qui sont plus là, mais c'est des personnes qui ont marqué ma vie jusqu'à aujourd'hui. Et Louis de Funès, pour son côté humoristique que je trouvais
sacré
unique
casting
à l'époque.
Je pense que tu aurais du monde ce soir-là dans ton restaurant pour écouter.
Ouais.
pour écouter.
C'est particulier,
à cette table-là.
À cette table, ouais. Et puis pour terminer, ben deux dames qui sont aussi.
C'est ce que j'allais te dire. J'allais dire ça manque de femmes ce casting.
C'est ouais, voilà. Mais bon, je suis quelqu'un qui apporte énormément aussi sur le fait justement de faire une égalité entre les hommes et les femmes quand je fais la cuisine. Et là, ben pareil pour la table. Bon, même s'il y a quatre hommes pour deux femmes, mais les deux femmes, ça serait la grande dame qui était Simone Veil, parce que je pense qu'elle a marqué beaucoup de choses dans ce qu'elle a fait dans ce pays. Et puis une autre dame aussi qui pour moi, un peu comme Louis de Funès, aurait apporté sur cette table une touche d'humour, c'était Annie Cordy. Parce que quand j'étais jeune, j'ai été bercé par toutes ces chansons les plus loufoques. Et voilà, ça serait ma table de 6. Johnny Hallyday, de Funès, Simone Veil, Paul Bocuse, Marcel Pagnol et Annie Cordy.
Un sacré casting, en tout cas, oui. J'aurais bien aimé être une petite souris ce jour-là dans ton restaurant si ce casting-là avait eu lieu. Merci
beaucoup. Aussi, écoute.
Merci Frédéric d'avoir passé cette semaine avec nous. C'était très sympa. On te retrouve sur les réseaux sociaux, Frédéric Payan. Tu es très actif, tu partages beaucoup de choses. On mettra aussi tes coordonnées sur le site d'Alpe 1, le site internet. Merci d'avoir passé la semaine avec nous et à très bientôt.